Bonjour et bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Partir un jour. Partir un jour, c'est un podcast mensuel dans lequel on aborde une destination, de l'idée qu'on s'en faisait avant le départ à l'expérience sur place, en passant par nos coups de cœur et nos conseils d'itinéraire. Et dans ce quatrième épisode, nous vous emmenons à Londres. Bonjour Aurélie.
Bonjour Rémi.
Alors Londres, c'est pas forcément une destination très exotique. C'est une destination que beaucoup de monde a déjà fait. Moi, j'y suis allé quand j'étais plus jeune, à plusieurs reprises, en voyage scolaire. C'est aussi là que j'ai fait un de mes premiers voyages en solo, parce que je trouvais que c'était une destination facile.
Moi aussi, j'y étais déjà allé plusieurs fois auparavant. Ici, la particularité de ce voyage, c'est que c'était notre premier voyage en famille. Et du coup, en faisant des recherches sur les visites qu'on allait pouvoir faire, on s'est rendu compte qu'il y avait des contraintes qui se rajoutaient. Le prix de certaines attractions qui n'étaient pas nécessairement les plus intéressantes pour un enfant de 4 ans. Il y avait également des tickets qu'il fallait acheter longtemps à l'avance pour avoir accès à l'attraction, comme par exemple London Eye, la grande roue sur le bord de la Tamise, ou alors d'autres où il faut arriver longtemps à l'avance, comme la relève de la Garde. Si on n'est pas une heure à l'avance, il est impossible d'avoir un bon spot d'observation, et attendre une heure sur place avec un jeune enfant, ça n'est pas envisageable. Donc une fois qu'on a établi ces contraintes, on a pris une décision, c'est de faire Londres sans faire les grands classiques.
Voilà, du coup, on ne va pas vous parler d'assister effectivement à la relève de la Garde à Buckingham Palace, ni d'aller voir Big Ben, ou d'aller dans la Tour de Londres, ce qui peut quand même avoir un intérêt quand on a des enfants, parce que c'est quand même des choses qui peuvent intéresser des enfants. Nous, on a décidé d'aller peut-être pas vers un Londres plus insolite, mais en tout cas un Londres moins usité.
Et c'est un choix qui s'est révélé finalement assez intéressant.
Hé hey, wow, qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Quel est le but de mon existence? Que veux-je dire par qui suis-je?
On l'a dit, c'était un peu un test, c'était notre premier voyage en famille à l'étranger. Donc c'est vrai que moi j'avais quelques appréhensions de savoir si on allait réussir à mixer des visites qui nous plairaient autant qu'à des enfants. Mais au final, je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Londres est une ville qui a beaucoup de possibilités, que ce soit, comme on l'a dit, les attractions principales, mais aussi d'autres choses moins connues. Et c'est surtout une ville qui attise, je trouve, l'imagination des enfants. Que ce soit avec les bus à impérial, les taxis aussi londoniens qui ont leur look très particulier, la présence très prononcée de la royauté avec les différents monuments, ben Big Ben, même si on n'est pas allé, on l'a vu, et puis bien sûr, évidemment, les nombreux écureuils qu'on croise dans les parcs, alors ça, c'est quelque chose qui marche très bien auprès des enfants et même auprès de certains adultes. Donc voilà, moi, globalement, j'ai beaucoup apprécié ce voyage. Même au niveau budget, je trouve que Londres est une ville qui peut vite devenir chère, surtout quand on est de plus en plus nombreux. Mais je trouve qu'ici, on a réussi à garder un budget convenable, tout en remplissant bien nos journées avec des choses très intéressantes.
Alors moi, personnellement, ça ne m'aurait pas déplu de revoir Westminster ou de découvrir la Tour de Londres, que je n'ai finalement jamais vue, je l'avoue. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé le côté nature de ce city trip. Ce qui est assez particulier parce que finalement, quand on visite une ville, on s'attend plutôt à avoir des visites fort urbaines, surtout à Londres. Mais entre Hyde Park et notre journée à Kew Gardens, finalement, on a vu beaucoup de verre et beaucoup de nature. J'ai été un petit peu moins convaincue par certains musées. C'était des visites intéressantes pour les enfants, mais en tant qu'adulte, je n'étais pas complètement convaincue par les visites. Je pense que c'est des musées qui sont intéressants, mais qui auraient plus leur place dans un séjour un peu plus long. Donc, à refaire, je pense que je m'orienterais plutôt vers une visite des Sky Gardens ou une promenade dans Camden Town, par exemple. Je modifierais un petit peu notre itinéraire, mais globalement, il fonctionnait.
On va peut-être développer ça dans nos coups de cœur. Toi, tu l'as déjà dit, je pense que c'est Kew Gardens qui t'a le plus plu.
Clairement. Kew Gardens, c'est un peu la visite qu'on hésitait à faire parce que c'est légèrement excentré. Il faut prendre le métro pendant une petite demi-heure, si j'ai bonne mémoire. On était un peu hésitant à le faire parce que, vu le caractère excentré de la visite, si on y allait, c'était pour passer la journée. Donc sur un city trip de 3 jours, c'était sacrifier une journée. Finalement, on y a été et je pense qu'on ne l'a pas regretté. C'est un peu la météo qui nous a décidé, c'est vrai, mais Kew Gardens sous le soleil, c'est vraiment une pure merveille. C'est un parc absolument immense. En une journée, on n'a pas eu le temps de faire tout le tour. Je pense qu'on a à peine fait la moitié et encore, parce qu'on a sauté certaines choses dès le début. Et il y a énormément d'activités, des visites fixes, mais également, c'est un parc assez dynamique. Quand on va sur leur site, il y a assez régulièrement des activités proposées pour les enfants et pour les adultes. Nous, il n'y en avait pas au moment où on est allé, mais si vous y allez, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil avant votre visite. Sur place, on peut citer par exemple la Palm House, une serre victorienne tropicale qui est absolument superbe de par sa structure architecturale, mais également très intéressante à l'intérieur avec de nombreuses plantes. On a eu beaucoup de succès avec la variété de mimosa sensitive, donc la fameuse plante, quand on la touche, les feuilles se referment. Avec les enfants, ça fonctionne toujours, mais la serre en elle-même vaut le détour. Mais il y a également d'autres serres avec d'autres biotopes qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais on peut voir des cactus, d'autres sortes de plantes. Le parc est immense avec, bien évidemment, comme tout parc londonien qui se respecte, des colonies d'écureuils pas trop farouches. On peut également noter des aires de jeu pour les enfants. Il y avait un treetop walkway. C'est une balade en hauteur qui permet de se promener à hauteur des feuillages de marronniers centenaires. Et ça, c'est ce qu'on a eu le temps de faire. On avait également repéré une reconstruction d'un terrier de blaireau, mais on n'a jamais eu le temps de l'atteindre tellement c'était loin. Une pagode chinoise qui était en restauration. Enfin, c'est immense, il y a de quoi faire et c'est intéressant.
Normalement, il y a aussi un petit train qu'on peut prendre pour aller plus vite à travers le domaine d'un point à un autre. Nous, malheureusement, on n'a jamais réussi à le prendre parce que ça tombait jamais au bon moment, au bon arrêt. C'est vrai qu'on aurait peut-être été plus vite à travers le parc grâce à ça. Mais le parc est immense et il y a des choses aux quatre coins et vraiment de quoi s'occuper une journée ou plus, comme tu l'as dit.
Oui, donc toi non plus, tu ne regrettes pas la visite du coup.
Oui, c'est vrai qu'à l'entrée, j'avais quelques doutes. Ça coûte quand même 16 pounds l'entrée pour un adulte. C'est beaucoup moins cher pour les enfants. Donc je m'étais demandé vraiment si ça allait pouvoir nous plaire durant toute une journée. Et effectivement, c'était vraiment à la hauteur de nos attentes.
Oui, maintenant, je ne sais pas si tu as d'autres visites qui t'ont marqué.
Moi, s'il fallait retenir un coup de cœur, c'est peut-être pas le Kew Garden que j'aurais gardé. Moi, je trouve que les musées, au contraire de ce que tu as pu dire juste avant, étaient vraiment plaisants. C'est par exemple la troisième fois que je vais au Musée des sciences de Londres. Et je le trouve toujours aussi passionnant et ludique, même si cette fois c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. J'avais par contre jamais fait le musée d'histoire naturelle qui est juste à côté, et j'ai encore une fois été scotché tant par le contenu que par la manière dont c'est présenté à l'intérieur. Pour ça les musées londoniens je trouve sont très très forts. Il y en a pour tous les âges, il y a de quoi passer aussi largement toute une journée à l'intérieur, c'est immense. Dans une ville qui est réputée comme ça pour son mauvais temps, assez souvent c'est quelque chose qui revient, même si nous on l'a pas expérimenté. C'est, je trouve, un vrai plus de savoir qu'on peut trouver de quoi s'occuper à l'intérieur avec les musées. Et oui, moi, si je devais conseiller vraiment à ceux qui me demandent quel musée on peut faire, alors oui, il y a les musées plus classiques, comme notamment la National Gallery ou le British Museum, mais je trouve que le Musée des sciences est un musée qui permet de s'intéresser aux sciences quand on n'a pas forcément envie de s'y intéresser, ce qui est mon cas. C'est vraiment un des rares musées que je conseillerais à tout le monde de par sa muséographie. Et le musée d'histoire naturelle, c'est aussi un musée qui a un lieu aussi très beau à voir. Je me souviens de la galerie, vraiment l'immense hall avec le squelette de baleine accroché au plafond, mais qui a aussi beaucoup de choses à offrir tant aux adultes qu'aux enfants.
Oui, c'est ça. Enfin, ce sont des musées qui sont vraiment pensés, accessibles à tous, contrairement, comme tu dis, à d'autres comme le British Museum, où pour les rendre accessibles pour les enfants, c'est un travail de l'adulte accompagnant qui doit rendre le contenu intéressant aux enfants. Alors que finalement, dans le musée des sciences et le musée d'histoire naturelle, c'est déjà prévu pour être ludique et attrayant.
Oui, il y a des choses auxquelles ils peuvent toucher directement, des boutons un peu partout. Et quelque chose qu'on n'a pas dit tant pour le Kew Garden que pour les musées, c'est que, comme on le disait, il y a moyen de passer toute une journée à l'intérieur, et il y a aussi moyen de se restaurer à l'intérieur à chaque fois. Donc c'est un peu des visites comme ça, je trouve. C'est des one-day trips.
Kew Garden, il est également possible de pique-niquer sur place, à l'exception d'à l'intérieur des serres, forcément, mais vous pouvez tout à fait vous rendre sur le site avec votre pique-nique, donc économiser le prix du repas et le manger sur place, c'est autorisé.
Mais ne donnez pas à manger aux écureuils.
Pourquoi? Après, il est dans ta main.
Je suis pas sûr qu'on ait le droit.
Ne serait-ce pas le moment rêvé pour mettre en commun nos ressources?
On pourrait trouver des compensations.
Comme on l'a dit en introduction, nous sommes restés 3 jours à Londres. En coup de cœur, on vous a présenté des visites qui peuvent durer des journées complètes. Donc finalement, rien qu'avec ça, on pourrait remplir les 3 jours. Mais nous avons quand même fait d'autres visites sur ces 3 jours. Donc il y a des choses qu'on a un petit peu raccourcies. Voici donc nos suggestions pour occuper 3 jours à Londres sans faire les classiques.
C'est pas une visite en soi, c'est plus quelque chose par lequel on est obligé de passer quand on va à Londres, c'est Hyde Park. Hyde Park, ça a été vraiment un point central de notre séjour, peut-être parce que l'hôtel était pas si loin du parc. C'est le poumon vert de Londres, et ce serait une erreur de ne pas y passer au moins une fois quand on est à Londres.
Bah, Hyde Park, ou un des grands parcs londoniens, il y a également Regent's Park ou St James Park, qui est connu également pour ses pélicans. Mais voir un parc londonien, c'est quelque chose à faire lorsqu'on est à Londres.
Hyde Park, on l'a même traversé de part en part un matin. Ça nous a pris une heure et demie. Je ne sais pas si on s'attendait à ce que ça prenne autant de temps. On y est allé tranquillement, on a pris des chemins de traverse. C'est ça qui est bien aussi avec Hyde Park, c'est qu'on peut s'y perdre. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on est un peu tombé par hasard à la sortie sur le monument, le mémorial au roi Albert, qui est juste en face du Royal Albert Hall. Et donc c'est ça, en fait, Hyde Park permet encore de se faire surprendre, même quand on croit connaître Londres, même quand on croit connaître le parc, parce que moi, j'avais déjà fait plusieurs passages. À chaque fois que je viens à Londres, c'est un peu là où je vais me perdre. Et malgré tout, j'arrive encore à être surpris.
Oui, et finalement, on n'a même pas fait tout ce qu'on avait repéré dans Hyde Park. On avait également vu qu'il y avait une petite plaine de jeu sur le thème de Peter Pan dans un coin auquel on s'était dit qu'on irait bien faire un tour. Et finalement, on n'a jamais eu le temps d'y aller.
Il y a le plan d'eau aussi dont on peut faire le tour, voir les cygnes. C'est un lieu de vie qui permet d'être à l'écart de la ville tout en étant au cœur de la ville. Et même si on avait dit qu'on ne parlerait pas des incontournables, c'est un incontournable pour moi de Londres. Ce qu'on a fait après, en fait, on a traversé Hyde Park parce que c'était le trajet pour aller de notre hôtel au Musée des Sciences. Donc on est allé au Musée des Sciences dont j'ai déjà parlé, que je trouve formidable. Tu ne partages peut-être pas mon avis ?
Je le trouve formidable pour les enfants, clairement. Maintenant, comme on l'avait dit en introduction, on cherchait des visites compatibles enfants et adultes. Et moi, en tant qu'adulte, je n'étais pas complètement convaincue. Après, il y a aussi le fait qu'on est tombé sur un jour où il y avait énormément de groupes scolaires, donc l'exposition interactive était vraiment très 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 bruyante. Vous imaginez 5-6 classes d'enfants en train d'hurler dans tous les sens et vous y êtes dans un espace clos qui résonne. Mais à part ça, les installations sont interactives, ludiques, donc pour un enfant c'est intéressant, pour un adulte, moins.
Je tempérerai un peu ça quand même parce qu'on a justement été voir l'exposition temporaire qui était prévue pour les enfants, mais on n'a pas fait tant la collection permanente. Et pour l'avoir déjà fait, il y a aussi de quoi s'occuper pour les adultes. C'est juste que là, on était dans un cas de figure un peu particulier. On n'y a pas passé la journée, on y a passé une demi-journée. Et encore, comme je disais, on avait déjà passé du temps dans Hyde Park avant. Donc, on n'a pas fait tout le musée cette fois-ci. À l'occasion, je t'y ramènerai pour te montrer qu'il y a aussi de quoi s'occuper pour les adultes.
Ok, le rendez-vous est pris.
Pour rester dans les coups de cœur dont on a déjà parlé, il faut aborder aussi la question de Kew Garden. Kew Garden, c'est difficile d'y passer moins d'une journée tellement il y a de choses à faire comme on l'a dit.
Je pense qu'on a fait le tour, j'ai fait le tour dans les coups de cœur. Juste, si vous choisissez de vous rendre à Kew Garden, regardez toujours la météo avant de le faire parce que je pense qu'une journée sous la pluie, ça ne vaut peut-être pas le déplacement jusque-là. Et avant votre visite, pensez toujours à faire un saut sur leur site internet, vérifier s'il n'y a pas des attractions temporaires qui vous intéressent, qui auraient lieu à ce moment-là. Du coup, il nous restait sur nos 3 jours une seule journée à occuper. On a été au musée d'histoire naturelle, une visite qui a eu beaucoup de succès, ne serait-ce que par la fameuse entrée avec cet escalator qui monte à travers un globe terrestre. Enfin, rien qu'avec l'entrée, on se doute que la scénographie à l'intérieur va être exceptionnelle et effectivement, elle l'est. Moi, personnellement, de cette visite, les deux éléments qui m'ont marqué, c'est la fameuse pièce qui reproduit un tremblement de terre, donc où tout se met à bouger et on a la sensation de ce que c'est de vivre un tremblement de terre de magnitude 2 ou 3, je ne sais plus, mais ça bouge déjà bien. Et ce qui a le plus fonctionné sur le lutin, l'animatronique du tyrannosaure.
Oui, il y a toute une partie du musée qui est dédiée aux dinosaures. On a dû la chercher parce qu'on a commencé donc le musée par tout à fait autre chose. On a commencé le musée par la géologie, les volcans, tout ça. On a vraiment passé beaucoup de temps dans les étages du musée. Je pense qu'il y en a fait 3 étages avant de se dire « Bon, là, on en a assez vu, il faudrait peut-être passer aux dinosaures » parce qu'on savait qu'ils étaient là, on savait juste pas où ils étaient. Preuve qu'on peut vraiment passer beaucoup de temps dans ce musée, même en passant assez vite sur certaines choses. Une fois qu'on a traversé tout le musée, on est arrivé dans la partie sur les dinosaures. Et là, il y a des dinosaures qui bougent. Et donc, pour les jeunes enfants de 4 ans, voire d'un peu plus, ça fait son petit effet.
Après le musée d'histoire naturelle, on a fait un incontournable avec les enfants, c'est prendre un bus à Impérial.
Oui, on a beaucoup pris le métro au cours du voyage. C'est quelque chose qui a aussi beaucoup de succès auprès des enfants, mais ce qui n'a pas forcément autant de charme qu'un bus à Impérial. Si vous avez l'occasion de monter dans un bus à Impérial, les enfants vont forcément vouloir aller à l'étage et tout devant. C'est un peu compliqué parce qu'il y a toujours du monde dans les bus, et si tous les enfants veulent aller devant, ça ne va pas toujours être possible. Nous, on a finalement réussi au deuxième bus qu'on a pris. Et alors là, on n'a plus envie de descendre.
Effectivement, on a eu de la chance d'avoir une place à l'étage devant sur le trajet qui nous amenait du musée d'histoire naturelle au British Museum. Dans le cas des bus à Impérial, je pense qu'il n'y a pas besoin d'opter pour un bus hop-on-hop-off. Les bus de la ville suffisent largement, surtout que le trajet rentre sur votre Oyster Card. Donc pour peu que vous ayez pris 2-3 fois le métro sur la journée, ça rentre sur votre forfait journalier et vous avez ce trajet gratuit ou pas très cher. Et les enfants ne payent pas.
Maintenant, j'avais lu que les lignes 11 et 88 étaient particulièrement intéressantes, voire même la ligne 15 qui va de Trafalgar Square à la Tour de Londres.
Après, pour revenir au bus, comme on l'a dit, on l'a pris en direction du British Museum, qui est un musée assez iconique de la ville. On y est vraiment allé en saut de puce parce qu'on n'avait plus énormément de temps dans la journée. C'est une visite qu'on a fait assez rapidement. Comme on l'a dit, c'est un musée qui nécessite un peu plus d'encadrement pour les jeunes enfants, parce qu'il faut leur expliquer ce qu'ils regardent. Ça n'est pas du tout prévu pour eux à la base, mais à partir du moment où on explique qu'on va voir des momies, qu'on explique ce que c'est qu'une momie, ça passe très bien, il n'y a pas de souci. Pour rappel, il y a énormément de collections dans ce musée, ça ne se limite pas à l'égyptologie. On avait hésité à aller voir tout ce qui était amérindien, les totems, etc., mais on n'a finalement pas eu le temps. Rien que les momies, ça nous a pris un petit moment.
On n'y serait de toute façon pas resté des heures, donc je pense qu'une visite éclair, c'était le mieux qu'on pouvait faire. Et au moins, on peut dire qu'on a fait une première approche de ce type de musée avec le Luta.
Oui, mais de toute façon, même en tant qu'adulte, ça fait partie des musées dans lesquels on ne peut pas rester des durées trop longues, parce qu'au bout d'un moment, on décroche, on ne sait plus très bien ce qu'on regarde, on le regarde sans le voir, et ça n'a plus de sens.
Donc voilà, notre city trip de 3 jours s'est partagé comme ça, entre les espaces verts de type Hyde Park, Kew Garden, et les musées, comme donc le musée des sciences, le musée d'histoire naturelle et le British Museum. Ça aurait pu s'arrêter là, sauf qu'on a eu quelques déconvenues avec l'Eurostar. En fait, pour aller prendre notre Eurostar, on a voulu faire un court passage dans Hyde Park plutôt que de prendre directement le métro. On a joué un peu trop longtemps avec les écureuils, et du coup, en arrivant à la gare de Saint-Pancras, on a fait face à une file de gens pas possible qui sortaient de la zone Eurostar, et donc le temps de faire cette file un peu bonus, on arrivait au-delà des 30 minutes avant lesquelles il faut arriver avant le départ du train, et donc ils ne nous ont pas laissé monter. Malheureusement, tous les trains de la journée étaient complets. Du coup, de notre train qui était prévu à 11h, on a été replacé sur un train qui partait à 19h30, et on a dû trouver un moyen de nous occuper durant toute la journée sans nous éloigner trop de la gare.
Avec nos oyster cats à sec et nos valises.
Et donc plutôt que de s'amuser à crapahuter à travers Londres avec nos valises sans savoir vraiment quoi en faire, et avec un enfant en plus, on s'est dit on reste à proximité de la gare, on voit un peu ce qu'il y a à faire, on essaye de s'occuper, et comme ça on arrive 2 heures avant le départ du train, de notre nouveau train, et on est sûr de l'avoir. On avait justement une liste de choses à voir dans le coin, des choses plutôt anecdotiques qu'on n'avait pas eu le temps d'aller voir, mais dont on se disait que ça pouvait quand même être intéressant, à commencer par le cimetière qui entoure la vieille église de Saint-Pancras.
Oui, c'est une visite que j'avais découvert grâce à un youtubeur qui s'appelle Axolot, qui fait des vidéos sur des visites insolites dans des grandes villes, et qui présentait cette église dans sa vidéo sur Londres. L'église en elle-même est assez classique, mais ce qui est intéressant, c'est son fameux cimetière. Il faut savoir que lors de la construction du chemin de fer londonien, le tracé des voies passait par l'ancien cimetière de Saint-Pancras. Il a donc fallu déplacer les tombes pour pouvoir faire passer le train. Et cette lourde tâche a été confiée à monsieur Thomas Hardy.
Surtout connu pour avoir écrit des romans tels que Loin de la foule déchaînée.
Et qui a résolu le problème en entassant les tombes autour d'un arbre qui est connu maintenant pour être le Hardy's Tree, l'arbre d'Hardy, et qui est assez impressionnant avec ses tombes entassées en cercle autour de lui, et l'arbre commence d'ailleurs à avaler littéralement certaines tombes dans son écorce.
On ne sait pas si c'était voulu ou pas, mais du coup ça fait un peu comme une œuvre d'art en perpétuelle évolution, avec les tombes qui s'imbriquent dans l'arbre et l'arbre qui grandit. De là, on est reparti vers la gare, mais non pas pour entrer dans Saint-Pancras, mais plutôt pour aller dans King Cross.
King Cross, qui est un nom qui parle bien aux lecteurs d'Harry Potter. Étant donné que c'est de cette gare que les apprentis sorciers prennent le Poudlard Express en direction de leur école, et qui est donc devenu un lieu de pèlerinage pour tous les fans de la saga, et dans laquelle on peut retrouver plusieurs éléments en rapport avec l'univers des sorciers.
Et en particulier, un chariot qui traverse un mur. Pour l'anecdote, moi la première fois que je suis allé voir ce chariot, donc c'était lors de mon voyage en solo sur place, en 2008, le chariot était dans un coin assez peu fréquenté, il y avait très peu de personnes qui y prêtaient attention. Et j'ai eu la surprise de voir que, presque 10 ans plus tard, la gare de King's Cross avait déjà été agrandie et que le chariot avait été déplacé. Et maintenant, il faut faire la file pendant 15-20 minutes, peut-être même une demi-heure.
Oh, je dirais bien une demi-heure, vu le monde qu'il y avait.
Pour pouvoir être pris en photo avec.
Bon, maintenant, la photo, il y a un accessoiriste qui vous prête une écharpe, une baguette magique, qui fait semblant de jeter l'écharpe au moment où la photo est prise pour faire comme si vous couriez réellement à travers ce mur. Donc c'est vraiment une attraction pour les fans de la saga. Et ce que j'ai trouvé le plus amusant finalement, c'était regarder les gens faire semblant de traverser ce mur.
Si vous n'avez pas encore eu votre dose d'Harry Potter, il y a aussi une boutique juste à côté qui vend tout le merchandising associé, que ce soit les mugs, les écharpes, éventuellement tous les livres de la série, si vous n'avez pas encore complété votre collection.
À l'extérieur de la gare, il y a une dernière installation en rapport avec l'univers d'Harry Potter. Il s'agit d'une sculpture en forme de cage de chouette géante qui présente une balançoire pour les plus petits.
Une balançoire qui rencontre un certain succès, comme quoi prendre la place d'Edwidge est quand même quelque chose qui plaît assez aux enfants. Après ça, on a quitté l'univers d'Harry Potter, on a cherché un autre point d'intérêt qu'on avait repéré sur internet avant de partir, et celui-là, pour le trouver, on a mis longtemps. On a fait tout le tour de la gare de King's Cross avant de tomber dessus, alors que l'entrée était vraiment juste à côté de la cage d'Edwidge, donc sur le parvis de la gare. Ce qu'on cherchait, c'était l'entrée du métro, tout simplement, parce que lors des agrandissements récents du quartier, une nouvelle entrée a été ajoutée, et dans cette entrée, il y a donc un grand tunnel qui permet d'accéder à la station de métro proprement dite, et ce tunnel, en fait, est un tunnel lumineux. Toute sa surface a été recouverte de luminaires dont la couleur change au fur et à mesure que le temps passe, et donc on le traverse et on a l'impression que la lumière change avec nous. C'est assez beau à voir.
C'est une œuvre d'art qui a été installée là et qui est assez sympathique à parcourir.
Et donc de retour après dans la station de métro, on est remonté dans Saint-Pancras et on a enfin pu prendre notre Eurostar, même si lui avait cette fois un peu de retard.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Pour continuer sur la thématique du voyage en famille à Londres, il y a aussi d'autres choses qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait et qu'on aurait pu conseiller. Moi je sais que quand j'étais parti là-bas en échange scolaire avec un correspondant à Londres, j'avais fait le HMS Belfast, qui est un navire de guerre ancré sur le quai de la Tamise. Et ça m'avait vraiment beaucoup plu, vraiment de visiter les coursives, de voir un peu comment on vivait sur un bâtiment de ce type-là. On pouvait même manipuler les tourelles de tir, les canons. Et bon, c'est sûr que ça plairait pas à tout le monde, mais le petit garçon que j'étais à l'époque, moi ça m'avait beaucoup plu. Donc je me dis que c'est quelque chose qu'on aurait pu faire. Et aussi, si vous avez des enfants qui ne vous font pas acheter quelque chose à chaque fois que vous entrez dans un magasin, il y a le fameux magasin Hamleys, qui est donc un gigantesque magasin de jouets de 4 étages. On l'a pas fait parce qu'on avait peur de devoir repartir avec tout le magasin sur le dos. Personnellement, j'ai un peu regretté parce que du coup, après, quand on attendait dans la gare de Saint-Pancras, il y avait un mini à Hamleys dont on a fait le tour. Et ça s'est très bien passé avec le lutin, donc finalement je pense qu'on aurait pu aller voir le grand magasin. Ça n'occupe pas forcément beaucoup de temps, mais je pense que c'est une manière aussi de décompresser après une journée à faire des musées, ça peut être une possibilité.
Moi les visites que j'aurais bien ajoutées, j'en avais parlé dans mes coups de cœur, donc le Sky Garden qui est une tour avec un jardin à son sommet, un jardin couvert en intérieur qui offre une vue panoramique sur la ville. Il faut savoir que c'est une visite gratuite, mais pour laquelle il faut réserver à l'avance parce que le nombre de places est limité. Donc bien pensez, si vous voulez le faire, à checker le site internet avant de vous rendre à Londres parce que les places partent assez vite, il faut compter 2-3 jours à l'avance la réservation. Et Camden Town, un quartier que je n'ai jamais visité et qui a l'air assez sympathique pour se promener.
Bon, encore une fois, c'est quelque chose qu'on pourra faire lors d'un prochain voyage.
Excusez-moi monsieur, pouvez-vous me dire où se trouve la voie numéro 9¾?
La voie 9¾? Plus vite que ma tête, c'est ça?
Pour revenir rapidement sur les aspects pratiques, aller à Londres c'est assez facile, soit vous prenez l'Eurostar comme nous, mais dans ce cas-là, faut faire bien attention, donc arriver suffisamment tôt, notamment pour le retour. On peut aussi le faire en avion, je pense qu'il y a des compagnies comme EasyJet qui proposent des vols jusqu'à un des aéroports de Londres. Ensuite, il faut rejoindre le centre. Avec l'Eurostar, on arrive directement en ville, mais en avion, je pense que du côté d'Heathrow, il y a le métro. Par contre, du côté de Gatwick, il faut prendre un train ou un bus. Mais bon, ça se fait assez facilement parce que les déplacements dans Londres sont très faciles, sauf bien sûr si on y vient en voiture. Mais au niveau des transports en commun, y a le métro, il y a les bus. La Oyster Card qu'on a déjà évoquée permet d'accéder à tous ces transports de manière uniforme.
Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, la Oyster Card, c'est une carte unique pour tous les transports publics de la ville de Londres, qui a un principe assez simple. Vous la passez à chaque fois que vous rentrez dans un transport, elle décompte le montant, sachant que votre montant journalier est plafonné. dans le centre de Londres, de mémoire, c'est 5 ou 6 pounds. Et à partir du moment où vous avez atteint ce montant journalier, chaque fois que vous scannez, vous voyagez gratuitement. Il n'y a plus de montant débité sur votre carte. Sachant également que les enfants voyagent gratuitement dans les transports londoniens jusqu'à 11-12 ans, il me semble, de mémoire. Donc voyager dans la ville avec les enfants, c'est assez simple et assez bon marché, finalement.
Au contraire, peut-être des logements. Il faut avouer que trouver un logement à Londres, quand c'est plus qu'un lit double, c'est difficile. Et surtout, ça coûte cher pour peu qu'on souhaite rester dans le centre. Les quartiers dans lesquels je cherche les hôtels, c'est le plus souvent les quartiers de Paddington ou de Kensington South, donc au sud de la ville. C'est vraiment les deux quartiers où je trouve que les hôtels sont à peu près accessibles au niveau prix, même pour des chambres familiales, sinon ça reste quand même plus cher que dans pas mal d'autres villes en Europe.
Pour vous donner une idée, on en a eu pour environ 30 euros par personne par jour pour la nourriture.
Oui, on aurait peut-être pu baisser les coûts si on avait mangé un peu plus sur le pouce, dans les fast-food type prêt à manger ou prendre des fish and chips à la volée.
30 euros par personne par jour pour la nourriture, ce à quoi il faut encore ajouter les déplacements et le prix d'éventuelles visites. Sachant quand même qu'à Londres, il y a énormément de musées qui sont gratuits, bien que les trois qu'on a cités sont en entrée libre. Mais comme on l'a également dit en introduction, il y a d'autres visites qui par contre sont assez chères, comme la Tour de Londres ou le London Eye. Maintenant, moi je trouve qu'à Londres, on mange bien. Peu importe la réputation qu'a la nourriture anglaise, on trouve énormément de restaurants étrangers qui proposent une super cuisine dans tous les quartiers, dans lesquels il ne faut vraiment pas hésiter à rentrer, vous mangerez très bien, il n'y a pas de souci. Londres est notamment réputée pour ses restaurants indiens et asiatiques, mais également toutes les petites pâtisseries qu'on peut trouver pour le fameux tea time, qui sont succulentes.
Oui, autant on peut trouver des endroits où on peut prendre l'English breakfast au matin, autant il y a des endroits où on peut profiter du tea time plus vers 4-5 heures. C'est vraiment le genre de petite tradition anglaise dont on peut profiter à Londres assez facilement. Et au niveau de la langue, bah, y a pas de réelle difficulté à partir du moment où on a quelques notions d'anglais. La monnaie, c'est la livre sterling. La livre est plus ou moins équivalente à 1 euro, c'est un peu plus, je pense, pas beaucoup. Pour changer, j'avais toujours changé avant le départ via ma banque. Cette fois-ci, on a changé sur place, dans le quartier de Paddington, donc dans le quartier de l'hôtel. Il y a plusieurs bureaux de change, on a fait un peu le tour rapidement pour comparer les taux. On en a trouvé un assez facilement, il n'y a pas eu de soucis majeurs, ça ne nous a pas pris énormément de temps. Et on a aussi pratiqué le retrait direct au distributeur, mais je ne sais pas finalement ce qui était le plus intéressant. Reste la grande question, quand partir ? Nous, on est parti début novembre, vraiment juste après Halloween. Et on a eu particulièrement de la chance avec la météo parce qu'il a fait beau durant tout le temps du séjour. C'est vraiment juste le dernier jour où il a commencé à faire un tout petit peu plus frais. Londres a pourtant une réputation de ville où on a soit du brouillard, soit de la pluie.
Après, selon la période de l'année à laquelle vous partez, vous aurez différentes facettes de la ville. En hiver, il y a les décorations de Noël qui illuminent la métropole, qui lui rendent un aspect assez féerique. Tout comme en été, s'il fait chaud, les enfants peuvent patauger dans Trafalgar Square. Peu importe le moment de l'année, il y a des particularités de la ville à découvrir.
Eh bien, merci. On va s'en aller.
Vous en allez ? Je ne crois pas.
Voilà, donc c'est un peu tout ce qu'on avait à dire sur notre voyage à Londres.
Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter nos blogs respectifs. Donc moi, vous pouvez me retrouver sur noteauvoyageurs.eu. Aurélie, toi, c'est sur
sautdepuce.fr avec des tirets.
Vous pouvez aussi nous poser vos questions en commentaire, soit sur nos blogs, soit directement sur partirunjour.fr. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, que ce soit sur iTunes ou via le flux RSS pour être averti du prochain épisode. Prochain épisode qui portera normalement cette fois bien sur Milan, si on ne change pas encore d'avis. Et d'ici là, bon voyage !